L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Et maintenant, on est toujours à l'Église de la Victoire du Québec. C'est merveilleux. Et c'est notre privilège ce matin d'accueillir un homme de Dieu. Comme je vous ai dit dans les autres réunions, on était super bénis avec lui, pasteur Alain Patrick Senguet, un homme qui a implanté 4 églises en France qui grandissent. C'est des églises vraiment qui portent du fruit. Et on voit des âmes sauvées. C'est un homme aussi qui aime beaucoup évangéliser. Il a gagné plein d'âmes au Seigneur. Et c'est merveilleux. Il est inspirant. C'est également un auteur de certains livres. Il va vous les présenter dans quelques instants. Donc, il a écrit des livres. Il est également animateur de l'émission Allô, le ciel est ouvert. Il fait partie des équipe enseigne-moi. Donc, c'est merveilleux. Moi, je peux vous dire, j'ai appris à connaître pasteur Alain Patrick encore plus. C'est la deuxième fois qu'il vient ici au Canada. Et comme on apprend à se connaître, je l'aime encore plus. C'est un bon signe, ça, hein? Parce qu'il y en a des fois, plus qu'on connaît le monde, finalement, je l'aime un peu moins. Mais dans le cas avec le pasteur Alain Patrick, comme on apprend à le connaître, on l'aime encore plus. C'est bon, ça. C'est une bonne chose. Et ça veut dire, en tout cas, on l'apprécie. Et c'est le fun parce que comme on travaille avec Enseigne-moi, on côtoie des hommes et des femmes de Dieu de qualité. Puis c'est merveilleux parce que on est une grande famille internationale avec Enseigne-moi. Et on a le privilège d'accueillir des hommes et des femmes de Dieu de partout, des quatre coins du globe. Et ce matin, j'aimerais ça vraiment vous encourager à recevoir l'homme de Dieu qui s'en vient parmi nous, pasteur Alain Patrick. On peut l'accueillir chaleureusement. Amen. Je vais vous inviter à étendre vos mains. Merci, Seigneur Dieu, pour pasteur Alain Patrick que tu nous as envoyé de la France. Seigneur, on le bénit au nom de Jésus. On reçoit ce matin la parole qui vient de ton trône. Et Seigneur, on prie que tu puisses continuer à souffler sur lui, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous bénir ce matin. On le prie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, pasteur Alain. Amen.
Merci beaucoup, pasteur Joël. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, ce matin, tu vas encore être béni. N'oublie pas le « encore ». Alléluia. Ce matin, tu vas être encore béni. Amen. Vous savez, à chaque fois que je monte cette marche-là, je fais vachement attention parce que je suis allé prêcher un jour dans une église et je me suis pris la marche, je suis tombé sur l'estrade. Donc à chaque fois, je fais bien attention parce que les marches ne sont parfois pas pareilles. Donc je monte là vraiment et le Seigneur me protège. Amen. Ces gens sont là avec moi. Alléluia. Amen. Donc comme le pasteur Joël l'a dit, merci beaucoup pasteur Joël, pasteur Mathilde. Bon, on me dit qu'elle n'est pas pasteur, mais peut-être ça va venir. Hein? Merci beaucoup pasteur Joël, merci Mathilde, merci pasteur Wallace, merci beaucoup Jérémy, pasteur Michael. De m'avoir invité ici. Je remercie hier le pasteur Jérémy pour la connexion. C'est le pasteur Jérémy qui nous a mis en connexion. Le pasteur Joël, nous nous voyons tout simplement à semence de la foi. Et je disais hier au pasteur Joël que, honnêtement, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Même dans mes pensées les plus lointaines, je n'aurais jamais imaginé venir prêcher dans l'église du pasteur Joël. Jamais, jamais. En fait, pour moi, c'était l'Américain qui était très loin, dans un continent, loin, 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 avec un très grand ministère inaccessible. Et il a un grand ministère, mais inaccessible, non, parce qu'aujourd'hui, je suis là, en face de vous. Alléluia. Et je disais aux gens hier matin que vous avez une grâce, un privilège d'avoir cet homme. Je vous assure, c'est une grâce, un privilège. Ceux qui n'étaient pas là hier matin, j'ai dit, imaginez un peu David. Il avait un démoniaque pour pasteur Saül. La Bible dit que Saül était possédé d'un esprit. Et il devait être là sous la responsabilité de quelqu'un comme ça. Imaginez-vous un seul instant sous la responsabilité de quelqu'un comme ça. Et pendant des années, ce garçon est resté fidèle sans médire. Vous comprenez? Son autorité. Donc quand Dieu nous donne une autorité qui est vraiment formidable, qui est gentille, qui est bien, qui a la passion des âmes, qui pense à vous, c'est une grâce, il faut tout le temps remercier le Seigneur. Alléluia. Et son équipe aussi est formidable. Des gens vraiment formidables que j'ai appris à connaître. Le pasteur Jean et son épouse. Et toutes les personnes ici, le pasteur Wallace. Il est où, au fait? Et son épouse, des gens vraiment formidables. Vous êtes très bien entourés. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu es bien entouré. Profitez-en pour grandir. Amen. Profitez-en pour grandir. Absorbez ce qu'il vous donne. Amen. Profitez-en. Ils sont là pour vous aider, pour vous servir, pour vous propulser à un autre niveau. Amen. Gloire au Seigneur. Ok, j'aimerais qu'on puisse se lever quelques instants. Je vais vraiment remercier le Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie pour le privilège, la grâce que tu m'as fait, Seigneur, de connaître ces merveilleuses personnes. Seigneur, merci pour le privilège que tu me fais aujourd'hui de parler à cette assemblée qui est ton peuple. Seigneur, je prie que, en cette journée, Seigneur, qui est la dernière de la convention, je prie que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses vraiment le bénir. Père, je prie que tu remplisses leur cœur de ta parole, que leur vie ne soit plus jamais la même, Seigneur, parce que chaque jour, tes bontés se renouvellent chaque matin. Oui, tes compassions ne sont pas à leur terme, et je crois, Seigneur, que ce matin, tes bontés se renouvellent dans notre vie. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous rasseoir dans la présence de Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Très bien. Le pasteur Wallace m'a demandé ce matin, au fait, ta femme va prêcher sur quoi à l'église à Paris. Je lui ai dit, elle va prêcher la même chose que moi à l'église. Parce qu'aujourd'hui, je vais prêcher sur défier vos défis. Alléluia. Défier vos défis. Elle a prêché la même chose là-bas. Vous savez, à des kilomètres de distance, c'est pas ennuyant, hein. C'est pas ennuyant qu'elle prêche une même chose que moi ici. Amen. Hey, vous êtes toujours avec moi là? Vous n'êtes pas parti chez vous là? Revenez là. Amen. Oubliez la marmite. Amen. Oubliez la bouteille de gaz. Si vous avez oublié la bouteille de gaz, les anges de Dieu sont allés la fermer. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Les anges de Dieu protègent votre maison. Il n'y aura pas de voleurs. D'ailleurs, il n'y a pas de voleurs ici à Granby. Alléluia. Ici, on ne cambriole pas vos boîtes aux lettres. Alléluia. Donc, revenez, soyez là avec moi. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire ce matin. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Comme je vous ai dit toute cette convention, je suis là vraiment pour vous encourager. Je ne suis pas là pour vous décourager, vous démotiver ou vous prêcher quelque chose de... Jésus a dit... l'onction du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et je suis là ce matin pour vous annoncer une bonne nouvelle ou vous rappeler ces choses parce que vous êtes l'église de la victoire du Québec. Amen. Et j'aimerais vous rappeler ces principes de victoire qu'on vous enseigne ici à l'église. Quand je me tiens devant vous pour vous parler, honnêtement, je n'ai vraiment pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit de plus, en fait. Je n'ai vraiment pas la prétention d'avoir quelque chose de supérieur que vos pasteurs. Vos pasteurs, ce sont des gens formidables, ce sont des gens ouins, ce sont des gens super bien formés. Amen. Je n'ai vraiment pas cette prétention-là. C'est la raison pour laquelle je viens là en face de vous, beaucoup plus comme un exhortateur. Amen. Quelqu'un qui va vous encourager. Si vous êtes découragé, j'aimerais qu'en sortant de cette convention, vous soyez véritablement encouragé et motivé. Amen. Alléluia. Et si je vous ai blessé d'une manière ou d'une autre, si j'ai été maladroit dans mes propos, honnêtement, c'était vraiment pas mon objectif. Mon objectif était vraiment de vous bénir. Amen. Alléluia. Et je crois que ce matin, nous allons encore être bénis. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous allons maintenant dans Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Vous savez, le premier verset que nous avons lu, Marc chapitre 11, le verset 23, nous dit que si nous parlons à une montagne, nous disons à la montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Il y a un homme, un jour, qui avait emménagé dans une maison et... Le problème, c'est que devant sa maison, il y avait une grande butte qui ressemblait à une montagne. Et cette butte était là depuis des années. Et de l'autre côté de la butte, il y avait une vue qui était formidable. Mais il ne pouvait pas voir cette vue-là à cause de la grande butte qui était en face de lui. Et elle ressemblait à une grosse montagne. Ce chrétien connaissait son autorité. Il s'est rappelé de ce verset biblique qui dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Là, à chaque fois qu'il allait derrière la butte, il voyait la belle vue. Il dit, non, mais c'est pas possible que cette butte puisse barrer cette belle vue. C'est pas possible que cette chose comme une montagne puisse barrer cette belle vue. Et là, il s'est mis devant la butte et il a parlé à la butte. Il a dit, montagne, au nom de Jésus, je t'ordonne de te déplacer et d'aller te jeter dans la mer. Bien-aimé, la semaine qui a suivi, la ville a ordonné qu'on puisse enlever cette butte et le sable qui sortirait de là, on ira le jeter dans la mer. Ah! Est-ce que vous voyez comment ce verset-là peut s'appliquer littéralement? Nous pensons qu'on n'est pas capable de déplacer les montagnes. Voici un chrétien qui a déplacé une montagne. Alléluia! Et là, il était sur sa fenêtre, il a vu. La belle vue était en face de lui. Alléluia! Vous savez, Dieu s'intéresse même aux petites choses de votre vie. Dieu sait ce que vous aimez. C'est pour ça que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quelqu'un me suit ici. La femme qu'il t'a donnée, il te la donne parce qu'il sait que tu aimes ce genre de femme-là. Il te la donne parce qu'il sait que tu vas l'aimer, que tu vas l'apprécier. Même si au début tu ne l'aimais pas et tu ne l'appréciais pas, dès le moment où tu vas te marier avec elle, tu découvriras que c'est une formidable personne et que c'est la personne qui te fallait exactement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il connaît. S'il connaît même le nombre de cheveux de votre tête, vous imaginez qui d'entre vous, pasteur Joël, est-ce que tu as déjà pris tes filles pour dire, viens un peu ici, je vais compter le nombre de tes cheveux pour voir si hier il y a eu des cheveux qui sont tombés. Qui a déjà fait ça? Ah, tu as déjà fait ça? Génial. Mais regardez, Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Pourquoi? Parce qu'il veille même aux petits cheveux qu'il y a sur votre tête. Dieu s'intéresse aux moindres petits détails de votre vie. Écoutez, je ne connais pas. Vous savez, certaines personnes ont une conception de Dieu. Vraiment, quand je lis la parole de Dieu, je ne vois pas cette conception. Je ne vois pas ça. Dieu, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux détails de notre vie. Il s'intéresse à nous. Il nous aime. Il veut nous donner des choses qui vont nous rendre heureux. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, c'est un père. La Bible dit, si mauvais que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas l'Esprit? Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, pourquoi Dieu ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses? Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils ont besoin d'une voiture, ils font preuve d'une fausse modestie et d'une fausse humilité. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, mais s'il te plaît, qu'elle ne soit pas belle. S'il te plaît, Seigneur, qu'elle soit un peu vieille. Moi, je peux me contenter, hein. Écoute, demande une vieille voiture à Dieu, moi je lui demanderai une nouvelle voiture, toute neuve, celle que j'aime, la voiture de mes rêves. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu n'est pas contre ça. Qui vous a dit que Dieu était contre ça? Dieu est seulement contre le fait que vous restiez attaché à ça. Parce que cette même voiture, Dieu peut vous parler, Dieu peut vous dire, donne-la à quelqu'un à côté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous voulez mieux, il faut apprendre à partager. Si vous n'apprenez pas à donner, vous ne pourrez pas recevoir. Écoutez, je tiens ce stylo dans ma main. Vous savez, il y a un peigne au Gabon qu'on appelle le peigne afro. En fait, c'est un peigne qui a un point comme ça. Et les gens se peignent avec. Et il y a des chrétiens au Gabon qu'on appelle des chrétiens peignes afro. Ils ont du mal à relâcher la main. Parce que vous possédez quelque chose. Vous comprenez? Pour pouvoir recevoir, il faut d'abord lâcher la main, l'ouvrir. Est-ce que vous comprenez? Lâchez ce qu'il y a dedans afin que Dieu puisse mettre quelque chose. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose les mains pleines. vous ne pouvez pas. Il faut que vous donniez pour recevoir. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous donnez vos dîmes et vos offrandes, attendez-vous à recevoir de Dieu. Ne faites pas cette fausse humilité qui consiste à dire, non, moi quand je donne, je ne m'attends pas à recevoir, hein, je donne. Écoute, quand tu donnes à un homme, ne t'attends pas à recevoir. Parce que l'homme peut te décevoir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu donnes à Dieu, attends-toi à recevoir. Ce n'est pas un péché, c'est un plaisir pour lui de te bénir. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est un plaisir. C'est-à-dire que comme vous, c'est un plaisir de donner à vos enfants des cadeaux. Pour Dieu, c'est un plaisir de vous bénir. Quelqu'un me suit. La Bible dit, l'Éternel prend plaisir à la paix de ses serviteurs. Et le mot hébreu, c'est shalom, qui signifie salut, qui signifie complétude. L'Éternel prend plaisir à la complétude de ses serviteurs. Il prend plaisir lorsque tu es heureux. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Vous savez, il y a des gens qui ont tellement souffert dans la vie qu'ils ne croient plus au bonheur. Un jour, une chrétienne est venue me voir et elle m'a dit, « Pasteur Alain Patrick, il y a tellement de bonnes choses qui sont en train de m'arriver actuellement que je trouve cela injuste. » Je dis, « Je ne comprends pas. Pourquoi tu trouves ça injuste ?» Elle me dit, « Pasteur Alain Patrick, je n'ai pas été habitué au bonheur. Je n'ai pas été habitué à l'amour. J'ai toujours été habitué à la souffrance. Donc quand ces choses viennent vers moi, je suis mal à l'aise. » Je lui ai dit, réjouis-toi. Parce qu'il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour se réjouir. Et le temps de ta souffrance est terminé. Alors profite-en et réjouis-toi. Quelqu'un me suit ici? Écoutez, la douleur a un commencement, mais la douleur a aussi une fin. Les dettes financières ont un commencement, mais les dettes ont aussi une fin. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La maladie a un commencement, mais sachez au nom de Jésus-Christ que la maladie a aussi une fin. Il n'y a que Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Mais le reste a un commencement et ça a une fin. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ que ta maladie arrive à sa fin maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise que tes problèmes financiers arrivent à leur fin maintenant. Tu as peut-être souffert depuis ton jeune âge. Mais je prophétise que dès aujourd'hui, les choses vont commencer à tourner en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux vivre dans le bonheur. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un me suit ici? La Bible ajoute à la fin du passage, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelqu'un me suit ici? Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Ne sois pas mal parce que tu es heureux. Ne sois pas mal parce que tu es comblé. Ne sois pas mal parce que tu es épanoui. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai discuté avec le pasteur Joël. Vous savez, Dieu a béni le pasteur Joël. Il s'est converti très jeune. Il est tombé dans une famille chrétienne. Et Dieu l'a béni très jeune, très jeune, très jeune. Il a découvert qu'il ne pouvait manquer de rien parce que Dieu était son berger. Il a découvert. Et depuis son jeune âge, il a appliqué ses principes. Donc, ce que certaines personnes ont souffert, lui, il n'a pas eu l'occasion de passer par là parce qu'il a découvert ces choses très, très jeune. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont être jaloux. Des gens vont être jaloux de lui, vont être jaloux de plusieurs personnes parce que vous êtes dans le bonheur, parce que vous êtes épanoui. Et vous, vous êtes là, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes dans une fausse pudeur, dans une fausse humilité. Écoute, tu es épanoui, gloire à Dieu. Ta femme est formidable, profites-en, gloire à Dieu. Tu es dans une église formidable, gloire à Dieu. Les gens t'aiment, gloire à Dieu. Tu as des pasteurs formidables, gloire à Dieu. Tu as un Dieu formidable, gloire à Dieu. Tu as des invités qui viennent prêcher dans ton église formidable, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ne sois pas complexé. Quelqu'un me suit ici? Ne sois pas complexé. Écoute, si tout autour de toi, il y a des gens qui souffrent et ces personnes-là veulent te complexer parce que tu vis dans le bonheur, parce que tu vis dans l'épanouissement, parce que tu es heureux, tu souris tout le temps. Si ces personnes veulent te complexer, écoute, dis-leur, j'ai une solution. J'ai une solution. Jésus-Christ et sa parole dans ton esprit, il te transformera et le bonheur que je vis, tu pourras aussi le vivre. Et c'est ce dont nous vous parlons depuis le début. Et c'est ce dont nous vous parlons ici à EVQ. Quelqu'un me suit ici? Être dans le bonheur. Alléluia! Vivre dans un beau pays. Être heureux. Dieu n'a jamais créé l'homme pour souffrir. C'est pas possible. C'est démoniaque d'être là, de souffrir, de dire non, c'est bon, je continue à souffrir. Vous savez, il y a deux types de souffrances. Deux types. Il y a des souffrances que vous ne devez pas accepter. Il y a d'autres qui sont normales. Vous appelez ça des souffrances, j'appelle ça des promotions. La maladie, c'est pas la peine de souffrir de la maladie. Jésus-Christ vous a affranchi à la croix de Golgotha. La pauvreté, c'est pas la peine de souffrir de la pauvreté. Jésus-Christ vous a affranchi à la croix de Golgotha. Quelqu'un me suit ici? Le trouble dans l'esprit, ce n'est pas la peine. Parce qu'il te donne la paix par son esprit. Il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix de Jésus-Christ est originale. Est-ce que vous m'entendez? Elle est originale. Elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, au moment où le monde est en train de trembler, au moment où tout le monde panique parce qu'il y a la crise économique, parce qu'il y a la crise financière, parce qu'il y a des épidémies qui attaquent le monde, toi, cette paix envahit ton cœur, elle surpasse toute intelligence. Et les gens te disent même, mais pourquoi tu paniques pas? Mais tu ne peux pas paniquer. Tu sais que l'Éternel est avec toi, qu'il te protège. Ah. Et vous me demandez pourquoi je suis heureux? Et vous me demandez pourquoi je souris tout le temps? J'ai des raisons de sourire. Alléluia! Et vous aussi, vous pouvez sourire tout le temps. Vous pouvez. Cette dame m'a dit non, pasteur, j'ai du mal. Je lui ai dit, sœur en Christ, profites-en maintenant. Tu as souffert. Tu as pleuré. Le Seigneur a vu ta souffrance et il essuie tes larmes. Profites-en. Les gens qui sont autour de vous, qui sont malheureux, vous pouvez les rendre heureux. Quelqu'un me suit ici. Vous pouvez les rendre heureux. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu qu'un chrétien doit vivre dans la pauvreté. Je n'en suis pas convaincu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'ai l'habitude de dire que, un, quand on me dit qu'un chrétien doit vivre dans la pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Personnellement, je considère cela comme une injure. Parce que j'ai vécu dans la pauvreté, j'ai vu ce que la pauvreté a fait à ma vie, j'ai vu ce qu'elle a fait à ma famille. La pauvreté ne m'a jamais rapproché de Dieu. Un jour, à cause de la pauvreté, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mon père sert Dieu, ma mère sert Dieu. J'ai grandi dans une église. Mais pourquoi nous sommes aussi pauvres? À un moment donné, j'ai failli m'éloigner de Dieu à cause de la pauvreté. Ne me dites pas que la pauvreté est une bonne chose. Ne me dites pas ça. La pauvreté va éloigner les gens de Dieu. Dieu veut vous bénir. Il veut vous bénir pourquoi? Parce qu'il y a tellement de pauvreté autour de nous. Il y a tellement de souffrance autour de nous. Que Dieu aimerait que nous soyons la solution de ce monde. C'est la raison pour laquelle il dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, nous sommes appelés à éclairer tous les domaines de notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Y compris notre compte bancaire. C'est-à-dire que si notre compte bancaire est au négatif, nous n'éclairons pas du tout notre banquier. Au contraire, il a même envie de nous virer de notre banque. Vous n'allez jamais impressionner votre banquier avec vos amen, alléluia. Mais vous allez commencer à l'impressionner quand Dieu va commencer à vous bénir. Il verra comment vous avez commencé. Hein. Vous avez commencé avec un peu. Dieu vous a béni. Et c'est monté, c'est monté, c'est monté. Vous verrez, il commencera à vous appeler très souvent même. Et à partir de ce moment, vous entrez dans son bureau pour lui prêcher l'évangile. Et il vous écoutera. Il ouvrira bien. Vous savez que j'ai invité un jour mon banquier dans mon église. Il est venu. Oui. Il est venu. Il est venu dans mon église. J'évite. Pourquoi? Parce que je sais que les banquiers, ils ont un langage. Et ils parlent le langage des chiffres. Pendant que vous parlez un autre langage. Tu peux tout lui dire. Tout, tout, tout. Pour le banquier. Tu es un chiffre positif ou un chiffre négatif pour lui. C'est tout. Je t'assure. Il fait son travail. Alléluia. Ne l'en voulez pas. Non, ne me dites pas que la pauvreté c'est une bonne chose. C'est pas possible. Je vous dis. Et j'ai fait mon témoignage. J'ai l'impression que la pauvreté en Occident, elle est tellement différente de la pauvreté que j'ai vécue, un point où les gens se permettent de faire l'apologie de la pauvreté et de prêcher ça. Et ils vont oser même dire que Jésus-Christ était pauvre. Et je me demande comment quelqu'un peut nourrir plus de 12 personnes pendant 3 ans à se balader dans toute la Palestine s'il n'a pas l'argent. Comment il a fait ça? Hein? Comment il a fait ça avec plus de 12 personnes? Il y avait les 12 disciples et d'autres personnes qui les servaient, ils se baladaient dans toute la Palestine. Comment ils faisaient? Beaucoup pensent que Jésus passait son temps à dormir dans la campagne, au mont des oliviers sous les arbres, ou bien, je ne sais pas, dans des grottes. Mais il y avait des hôtels à l'époque. Il y avait des hôtels. Pourquoi Marie et Joseph se sont retrouvés dans une étable? Parce qu'il y avait plus de place dans les hôtels, dans des endroits où on pouvait les loger. Vous n'avez jamais fait gober que Jésus était pauvre, c'est pas possible. Ça aura du mal à rentrer dans ma tête. Ça, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? C'est pas possible. Essayez, vous allez voir. On vous envoie juste votre neveu à la maison. Votre neveu, au bout du 3e jour, tu trouves ça déjà lourd parce qu'il mange trop. Mais dis donc, Bernard, tu bouffes un peu trop, hein? Tu peux diminuer ta ration. Tu trouves ça déjà lourd. Mais imagine maintenant 12 adultes avec d'autres personnes autour. Il faut les nourrir. Il faut les héberger pendant 3 ans et demi. Hein? Les gars, ils abandonnent leurs activités, la pêche, tout ça. Ils abandonnent. Ils vont nourrir leur famille comment? Comment ils faisaient? Jésus était leur source. Est-ce que vous comprenez? Jésus s'occupait non seulement des disciples, mais il s'occupait aussi de la famille des disciples. Parce qu'il n'était pas un irresponsable. Pasteur Joël, il faut vraiment qu'on aille un peu faire des missions en Afrique, hein? On va aller et puis on va amener un peu quelques chrétiens d'ici. Hein? On va aller au fin fond de la forêt. De la forêt africaine. Au fin fond. Hein? Là où dans la nuit, il y a des sorciers, des marabouts. Au fin fond. Oh, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Ok. On ira en Afrique un peu. J'ai l'habitude de dire les démons en Occident sont trop intelligents. Ils réfléchissent avant d'agir. En Afrique, ils sont bruts. Ils t'attaquent, ils te mangent tel que tu es. Quand tu verras. Vous savez, Dieu m'a pris vraiment de très loin pour m'amener là où je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai une prédication intitulée « De la citerne au palais royal ». Dieu m'a pris de loin. Frère, tu es de quel Congo? RDC. RDC aussi. Ok, très bien. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, dans un village appelé Divenié. Un vieux village. Je suis né là-bas. Quand je suis né, je ne sais même pas si on m'a amené à l'hôpital. À un point où ma mère me dit que je suis né le 28 février, mon père dit que je suis né le 6. Donc c'est à moi de choisir. Et j'ai 2 anniversaires, je fête les 2. Je fête le 6 et le 28. Je suis le seul sur la terre qui a 2 fois les cadeaux. Et ça, j'aime demander à mon église, ils fêtent deux fois mon anniversaire. Je suis le seul à l'église où on fête deux fois mon anniversaire. Le 6 février, joyeux anniversaire, pasteur. Le 28 février, joyeux anniversaire. Quand Dieu t'a sorti de là, et tu continues à, si tu continues à croire que la pauvreté, c'est de Dieu, je ne sais pas quel évangile tu as rencontré. Je ne sais pas. Je vous assure. Hein? Je ne vous demande pas de vous attacher au matériel. Hein? En principe, quand vous êtes chrétien, vous savez très bien que le matériel, c'est tout simplement des outils que Dieu nous donne pour accomplir notre destinée. Est-ce que vous comprenez? Plus vous en avez, plus vous pouvez accomplir grand. C'est tout. C'est rien pour vous, en fait. L'argent, vous n'êtes pas esclave de l'argent. L'argent est votre serviteur. Vous le savez, vous le comprenez. Vous n'êtes pas attaché à ça, ça c'est mon argent. Non, vous le savez, c'est tout naturel. Et donc on peut parler d'argent à l'église tranquillement, ça ne va même pas vous choquer. Parce que vous savez qu'on parle de votre serviteur. C'est tout. Quelqu'un me suit ici? Ah bon, j'arrête mes histoires. Le titre c'est « Défiez vos défis ». Il faut que je vous parle de « Défiez vos défis ». Hein? J'ai commencé... défiez vos défis. Donc, le deuxième passage, c'est Jean chapitre 15, le verset 7. Pasteur Alain Patrick, il faut très bien terminer ta convention. Il ne faut pas qu'on te lance des tomates. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi, si vous restez connectés à moi, à Jésus-Christ, il est le cep, nous sommes les sarments. C'est ça la clé. Demeurez connectés à lui. Quelqu'un me suit? Et que mes paroles demeurent en vous, et que les paroles du Christ demeurent dans notre esprit, comme nous avons vu hier. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce passage, il n'est pas dit, demandez ce que vous voudrez selon ma volonté, et cela vous sera accordé. Vous avez remarqué ça? Il n'est pas dit selon ma volonté. Pourquoi? Parce que si vous êtes connecté à Jésus, et que les paroles de Jésus sont dans votre cœur, dans votre esprit, la volonté de Dieu vous est révélée. Vous ne ferez jamais des prières en dehors de la volonté de Dieu. Impossible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et vous allez voir plus loin. Vous savez, j'ai étudié ce verset biblique. Quand il dit, et cela vous sera accordé, l'expression accordée, là, le mot grec, c'est ginomai. Ça veut dire faire venir dans l'existence, faire apparaître dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la chose n'existait pas, le Seigneur va la créer spécialement pour toi. Faire venir dans l'histoire, dans l'existence. Écoutez, s'il n'y a jamais eu une église de plus de 4 000, 8 000, 10 000, 40 000 membres ici à Granby, je prophétise au nom de Jésus-Christ qu'il y aura une église comme ça ici à Granby. Dans le nom de Jésus-Christ. Amener à l'histoire les choses qui n'existent pas. Si vous demeurez en Christ et que vos paroles demeurent en lui. Je suis juste dans mon introduction. Oh mon Dieu. Marc 11, 23 dit, si vous dites à cette montagne, et la montagne aujourd'hui, ce sont nos problèmes, ce sont nos difficultés, ce sont nos défis. Tout le monde a des défis dans la vie. Quelqu'un me suit ici. Certains les appellent les problèmes, d'autres les appellent les défis. Moi, je n'ai pas de problème, je n'ai que des défis. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je n'ai que des défis. Si vous dites à cette montagne, vos défis, vos problèmes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit de parler de vos montagnes. Il n'a pas dit de parler de vos problèmes. Il a dit de parler à vos problèmes. Est-ce que vous comprenez très bien la différence? Parce que nous les chrétiens, quand on a un problème, toute la planète est au courant qu'on a un problème. On appelle tout le monde. On appelle Tati, on appelle Tonton, on appelle le pasteur, on appelle le frère, on appelle tout le monde. On appelle même des inconvertis qui ne comprennent pas comment vivre par la foi. Et on leur parle de notre problème. Écoutez-moi bien, ne racontez pas votre vie à tout le monde. Parce que vous ne connaissez pas forcément les gens. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Parlez de votre vie à Jésus-Christ. Et si certaines situations semblent vous dépasser, parlez-en à votre pasteur ou à votre responsable direct. Mais n'allez pas dire ça à toute la planète. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Il dit de parler à la montagne, mais pas parler de la montagne. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez-moi bien. Nous rencontrons tous des murs dans notre vie. Nous rencontrons tous des difficultés dans notre vie. Nous rencontrons tous des montagnes dans notre vie. Mais le Seigneur nous dit que le chemin est aplani. Vous savez, un jour, quand j'avais 15 ans, le Seigneur m'a dit une puissante parole. Il m'a dit, j'étais tout donné. J'étais tout donné. Ah! Je me disais, Seigneur, tu m'as tout donné. Il m'a dit, tu ne peux pas échouer. Si tu restes fixé sur moi et dans ma parole, personne ne pourra te résister. Personne. Il nous a tout donné. Toutes les limitations et tous les murs qui sont en face de nous. Dans le monde physique, nous avons l'impression que c'est là. Ayez les yeux de la foi. Ayons les yeux de la foi. Lorsque vous regardez un problème, ayez les yeux de la foi. Oh, j'ai envie de vous dire, arrêtons ou arrêtez de regarder le diable et ses problèmes et fixons les yeux sur Jésus et ses solutions. Parce que Jésus a des solutions. Ôtez vos regards du diable et de ses problèmes. Fixez vos yeux sur Jésus et les solutions. À chaque fois que vous voyez un problème, ayez les yeux de la foi. Juste derrière le problème se cache la solution. Amen. Juste derrière le problème se cache la solution. Alléluia. Toutes ces choses en face de nous n'ont pas de fondement. Zacharie 4, le verset 6 au verset 7 dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Complètement. Vous savez quoi? Sur le chemin de votre destinée, les anges de Dieu vous précèdent. Ils aplanissent le chemin pour vous. C'est déjà fait. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans le monde physique, pour vous, ces difficultés semblent être réelles. Mais dans le monde spirituel, ce sont des mirages. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des mirages. Les mirages, c'est quoi? Lorsque vous marchez sur la route, quand il fait très chaud, vous avez l'impression qu'il y a une flaque d'eau. Mais quand vous vous rapprochez, la flaque d'eau disparaît. Certains d'entre vous êtes passés par des situations, mais difficiles. Difficile. Dieu vous a délivré. Et ces situations-là sont devenues pour vous comme des anciens cauchemars. C'est comme si vous étiez dans un rêve. Oui, vous étiez dans un rêve. Vous étiez dans un cauchemar et Jésus vous a sorti de là. Ces choses ne sont pas réelles. Il y a beaucoup de murs que nous rencontrons en face de nous. Et nous devons avoir la sagesse de Dieu pour affronter chacun de ces murs, chacune de ces difficultés. Nous n'affrontons pas les murs de la même façon. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Plus vous avancez sur le chemin de votre destinée, vous développez la sagesse avec laquelle vous appréhendez vos problèmes, vos défis, vos difficultés, vos murs. Mais ces murs, je vous dis, n'ont pas de fondement. Ces murs n'ont pas de fondation. Il y a des murs quand vous vous mettez en face d'eux. Jésus dit, tu parles à la montagne se déplace. Il y a des murs, vous arrivez en face d'eux, vous parlez, ils se déplacent. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des murs, vous arrivez en face d'eux, vous parlez, ils ne se déplacent pas. Parce qu'il y a des murs dont il ne faut pas parler et il y a des murs à qui il ne faut même pas parler. Ces murs-là, quand vous parlez d'eux ou quand vous leur parlez, vous amenez à l'existence des choses qui n'existent pas. Faut même pas parler à ces murs. Vous savez ce qu'il faut faire à ces murs-là? Quand vous êtes en face de ces murs, allez vers ce mur et poussez-le, il va tomber. Ne parlez pas, ne négociez pas. Poussez le mur et le mur va tomber. La Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des murs que vous devez renverser. Arrêtez de raisonner, arrêtez de parler, arrêtez de parler même de ces murs. Foncez vers ces murs et renversez-les. Quelqu'un me suit ici? Il y a des murs, vous allez les affronter. Vous allez parler au mur. Le mur ne se déplace pas. Vous allez vers le mur, vous poussez le mur. Le mur ne tombe pas. Qu'est-ce que vous faites en face d'un tel mur? Vous fermez tout simplement vos yeux. Vous regardez le mur, mais vous fermez vos yeux. Vous refusez de reconnaître la présence du mur et vous foncez à travers, vous verrez, vous retrouverez l'autre côté. Il y a des murs que vous devez ignorer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des difficultés et des problèmes que vous devez ignorer. Vous fermez. La Bible dit, c'est dans le silence, dans le calme et le silence que sera notre force. La Bible ajoute dans Lamentations 3, 28, qu'il s'assoit solitaire et silencieux parce que c'est ce qui lui a été imposé. Il y a des problèmes que vous ne pourrez résoudre qu'en étant silencieux. Parlez là. Parfois ça ne change pas les choses. Écoutez, vous n'allez jamais réussir à changer votre mari. Vous n'allez jamais réussir à changer votre femme. N'essayez pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? N'essayez pas de le faire. Laissez Dieu le faire. Il y a des choses que vous allez résoudre que dans la prière. Alors arrêtez de dire, toi là, ta mère t'a mal éduqué, mais moi je vais te rééduquer. Tu ne pourras pas le rééduquer. Et lui te dira, moi je suis un homme, gars. On ne me rééduque pas, mes parents m'ont bien éduqué. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples comme ça qui existent? Peut-être pas ici, vous êtes tous formidables, gloire à Dieu. Amen. On est vraiment au pays des gentils ici, on est au pays de Candy. Ah. Mais au pays de Candy, il y a des méchants et des gentils. Mais Candy, elle était très gentille. Oh. Cette fille, vraiment, on avait l'impression qu'elle était chrétienne baptisée du Saint-Esprit. Elle se demande, mais vous savez, quand on voit ces gens qui font les dessins animés, on se demande aussi, mais ces gens-là, ils sont chrétiens ou pas? Écoutez leur chant. Dis-moi, Bioman, pourquoi dans tout l'univers, les forces du mal veulent s'emparer de la terre? Et Bioman répond, parce que petite fille, la terre est trop jolie. Parce que petite fille, il y a la jalousie de tous les méchants qui voudraient empêcher le ciel d'être bleu, les oiseaux de chanter. Ils sont bien gentils. Oh là là. Ah, les dessins animés, mon Dieu. Vous savez, pour vivre toutes ces choses, nous devons reformer notre langage. Reformer notre langage. Parlons comme des rois. Quelqu'un me suit ici? Nous sommes des rois. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Darby dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça que la Bible appelle ça un sacerdoce royal. Vous êtes des rois et des prêtres, des rois et des sacrificateurs. Et les rois ont une façon de parler. Les rois ne médisent pas. Les rois ne vont pas de maison en maison pour raconter des choses bizarres sur les autres. Les rois n'ont pas ce temps-là. Ils ont tellement d'occupations à gouverner le territoire, à dominer le territoire dans lequel ils sont. Ils n'ont pas ce temps-là. Quelqu'un me suit ici? Arrêtons les médisances, bien-aimés. Arrêtons ça. Les rois ne parlent pas comme ça. Les rois ont une façon de parler. Vous savez, lors de la Révolution française, on a attrapé le fils de Louis, le fils de Louis XVI. Et pendant la Révolution, on a voulu tuer directement le fils de Louis XVI. Et là, les révolutionnaires ont dit, non, ne le tuons pas. Si on le tue, il est encore jeune. Il n'a pas encore commis les péchés. Voyez-vous, c'était des fervents catholiques. Ils croyaient au paradis. Est-ce que vous suivez? Ils croyaient aussi en enfer, en passant au purgatoire aussi. Mais il dit, ne le tuons pas. Si on le tue, c'est un jeune, il ira tout droit au ciel. Et c'est trop bon pour son mauvais père. Il dit, nous allons le mettre chez une sorcière. Et la sorcière va lui apprendre à maudire, à être méchant. Et lorsqu'il sera méchant et que l'iniquité aura rempli son cœur, nous le prendrons, nous le tuerons comme son père et il ira tout droit en enfer, sans escale. Et là, la sorcière a récupéré l'enfant. Et la sorcière et son mari ont commencé à enseigner des choses à l'enfant. Mais des semaines sont passées, l'enfant n'apprenait pas ces choses. Des jours sont passés, l'enfant n'apprenait pas ces choses. Des mois sont passés, l'enfant ne progressait pas dans l'art de maudire les gens, dans l'art d'être sorcier. L'enfant avait du mal. À un moment donné, la sorcière s'est fâchée. Elle a attrapé l'enfant. Elle lui a dit, mais bon sang, je te dis de dire des choses. Je te dis de maudire les gens. Je te dis de prononcer des formules magiques. Pourquoi tu ne le fais pas? L'enfant, la tête baissée, va lever la tête pour la première fois. Il va dire à la sorcière, je suis né pour être un roi. Les rois ne parlent pas comme ça. Alléluia, que quelqu'un acclame le Seigneur. Les rois ne parlent pas comme ça. Je suis né pour être un roi. Je suis né pour donner des décrets. Je suis né pour gouverner. Je suis né pour parler à la montagne et la montagne se déplace. J'ai l'autorité. Je ne perds pas mon temps à parler des niaiseries. Quelqu'un m'a suivi ici parce que je suis un roi. Dites, je suis un roi et je suis une reine. Je ne perds pas mon temps à parler des niaiseries. Les niaiseries, en fait, en passant, c'est des bêtises. Hein? Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu es aujourd'hui, c'est là où ta langue t'a amené. Ce que tu es aujourd'hui. Parce que Jacques nous dit que la langue est comme un gouvernail. Comme un gouvernail. Ta vie est peut-être en désordre. Mais c'est comment tu as géré ta langue. Quelqu'un me suit ici. Ne disons pas des choses négatives sur nous. Jamais, ne dites pas ça. Prononcez pas des choses négatives. Si vous commencez à confesser des choses, parlez des choses. Quelqu'un me suit ici. Et ça s'accomplit. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai commencé à grandir. Et quand je grandissais, je remarquais que mon nez grossissait. Et ça me dérangeait. Parce que devant un miroir, je trouvais mon nez un peu trop gros. Je me mettais devant, je dis, oh Seigneur, et c'était vraiment un problème pour moi. Ça a commencé à me complexer. Bien que je savais qu'il ne fallait pas que je me complexe, je me suis mis devant le miroir. Et j'ai parlé à ce nez. J'ai dit, au nom de Jésus, tu arrêtes de grossir comme ça. Je suis sérieux. Vous savez quoi? L'année d'après, Dieu a tellement bien fait les choses. Le nez a arrêté de grossir et la tête a grossi pour que tout soit en équilibre. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir vraiment un petit bidon. Vous comprenez? Est-ce que vous avez déjà vu des hommes enceints? Hein? Ça a commencé à sortir chez moi aussi. Et ça a commencé à me faire peur. Et j'ai commencé à parler. Vous comprenez? Je me mettais devant le miroir et je parlais à mon ventre. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, ce ventre-là, tu retournes au nom de Jésus. J'appelle les tablettes de chocolat au nom de Jésus-Christ. J'avais une seule grosse tablette de chocolat, un abdominal qui était là. Et j'ai commencé à appeler 6 tablettes de chocolat. J'ai dit, j'appelle 6 tablettes de chocolat au nom de Jésus. Et j'ai commencé à faire des pompes, de l'exercice physique pour ça. Est-ce que vous suivez? J'ai commencé par une pompe, 2 pompes. Au bout de la 3e, j'étais fatigué. J'ai dit, je vais boire de l'eau un peu. Je bois un peu de l'eau. J'ai fait les pompes. L'année d'après, j'ai vu des résultats. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des résultats. Le Seigneur s'intéresse même aux petites choses comme ça de chez vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez parler à votre montagne. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment vous dire que vous êtes en train d'entrer dans une ère spéciale dans votre église. Restez connectés. Vous savez, on peut facilement se déconnecter de la vision, de l'actualité prophétique de l'Église et du ministère. Vous êtes en train de passer par une saison. Restez connectés. Restez connectés. Ne vous déconnectez pas. Parce que Dieu est en train de faire des choses. Vous savez, parfois Dieu nous visite de façon incroyable. Kenneth Hagin dit souvent, il y a des chrétiens, le Saint-Esprit peut passer là avec un chapeau rouge. Ils ne le reconnaîtront pas. Il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas à connaître les temps et les saisons dans lesquelles ils sont. C'est pour ça que dans leur destinée, ils sont en retard. Ils ne comprennent même pas qu'ils sont en retard. Bien-aimés, Dieu est en train de faire quelque chose dans cette église. Et vous devez le réaliser. Vous devez le comprendre. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et vous, Dieu veut vous impliquer à l'intérieur. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas seulement une question du pasteur Joël. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien que deux couples français quittent leur pays. Leur pays. Pour venir ici. Ça ne vous dit rien. Bien-aimés, je connais Jérémy. Il est attaché à ses parents. Ça, c'est comme ça que je l'ai toujours connu. Peut-être que Dieu l'en a délivré. Ah, Jérémy et maman, Gisèle, même quand il est parti, il allait voir maman. Je n'aurais jamais misé que Jérémy aurait quitté la Bretagne. Quand il allait à Paris, ah, ça m'a surpris. Quand on m'a dit qu'il venait ici au Canada, j'ai dit non, c'est bon, il blague, il aime trop maman. C'est pas possible, il sera trop loin de maman. Mais je me trompais. Parce que je n'imaginais pas à quel point il aimait le Seigneur, à quel point il aimait Dieu, au point où il était prêt à aller partout où le Seigneur le conduisait. J'aimerais vous dire que ce n'est pas chose facile. Certains d'entre vous, on vous dit non, vous allez aller en France. Vous n'imaginez même pas, on va vous envoyer. Vous n'imaginez même pas vous déplacer. Mais ils se sont déplacés parce que vous êtes dans une saison particulière. Restez connectés. Vous savez, entre Malachie et Matthieu, entre Malachie et Jean-Baptiste, il y a près de 400 ans qui se sont écoulés. Près de 400 ans. Aucun prophète n'a parlé. Il y a eu des leaders qui se sont levés. Vous comprenez? Mais entre Malachie et Matthieu et Jean-Baptiste, aucun prophète ne s'est levé. Jean-Baptiste s'est levé pendant des années. Le peuple d'Israël attendait le Messie. Les prophètes avaient prophétisé sur le Messie. Daniel avait clairement parlé dans son livre du Messie avec une précision incroyable. Vous étudiez les 70 semaines d'année de Daniel, vous voyez la précision avec laquelle Daniel va prophétiser la venue du Messie. Les Juifs attendaient le Messie. Ceux qui étudiaient les Écritures pouvaient se rendre compte que c'était là où le Messie devait venir. Mais ceux qui étaient déconnectés, le Messie qu'ils attendaient, ils n'ont pas pu le reconnaître. Parce qu'ils étaient déconnectés. Complètement. Vous savez, vous pouvez attendre le réveil. Le réveil peut venir, vous ne le voyez même pas. Vous pouvez demander l'onction de Dieu. L'onction peut venir, vous ne la voyez même pas. Elle vient, elle passe. Vous ne vous rendez pas compte que l'onction est passée. Dieu peut vous visiter de façon intense. Par exemple, hier, il y avait une forte présence de Dieu. Ceux qui sont sensibles, ils vont la sentir, ils vont capter. Ils vont la prendre. Et j'aime comment l'apôtre Paul le dit en grec. Katalambano. Ils vont la saisir. Vous êtes dans un temps particulier. Saisissez. Saisissez. Parce que cette église que vous voyez comme ça, elle ne sera pas toujours comme ça. Le pasteur est encore accessible. Mais Dieu va amener tellement de monde. Et je bénis le Seigneur de ce que vous faites partie, vous fassiez partie de cette merveilleuse aventure. Alléluia. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, je fais partie de cette aventure. Alléluia. Élevez vos mains là où vous êtes. On va prier pour vous. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour ton église maintenant. Père, je prie qu'autant qu'ils sont maintenant, que chacun reste connecté et concentré, Seigneur, sur ce que tu es en train de faire. Que chacun soit informé de l'actualité prophétique, Seigneur, de cette église. Père, tout le mouvement de ton esprit, toute la croissance de l'église que tu veux amener, ô Dieu, toutes les réformes que tu veux amener dans les vies et dans les cœurs. Père, qu'aucun ne soit épargné, qu'aucun ne soit déconcentré. Père, que chacun reste connecté, reçoive, ô Dieu. Père, je prie qu'autant qu'ils sont maintenant, Seigneur, qu'ils soient des grands responsables plus tard, qui vont s'occuper de ces milliers de personnes qui vont venir dans cette église, ô Dieu. Père, je te remercie parce que maintenant tu m'ouvres les yeux. Merci Seigneur pour les anges. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer des anges de Dieu qui sont assis juste derrière chacun de vous et chacune des chaises. Il y a un ange assis sur chacune des chaises, vide ou pleine, et cet ange a la responsabilité d'aller chercher une âme et de la mener assise sur ses chaises. Je vois ces anges maintenant et je libère ces anges au nom de Jésus-Christ. Ils amènent les personnes. Merci Seigneur, parce que l'église est prête à recevoir ces personnes. L'église est prête à encadrer ces personnes. L'église est prête à donner à ces personnes ce dont ils ont besoin. Père, merci parce que cette église est un havre de paix. Père, merci parce que tous ceux qui viendront dans cette église pauvres deviendront prospères. Père, merci parce que tous ceux qui viendront dans cette église malades repartiront guéris au nom de Jésus. Père, merci parce que tous ceux qui viendront désespérés repartiront avec l'espoir au nom de Jésus. Père, merci parce que ceux qui viendront célibataires et qui voudront se marier trouveront quelqu'un avec qui se marier dans cette église au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour tout ce que tu fais dans cette église. Merci pour la sagesse que tu donnes à chacun des membres de cette église, ô Dieu. Merci pour l'intelligence que tu donnes. Merci Seigneur pour l'amour que tu donnes. L'amour pour ta parole, l'amour pour leur leader, l'amour pour la vision au nom de Jésus-Christ. Et ils courent après cette vision tous ensemble d'un commun accord, tel un seul peuple à la recherche de son Dieu. Père, je les bénis au nom puissant de Jésus. Je ne permets pas à l'ennemi, je ne permets pas au loup, au Dieu, de venir s'accaparer d'aucune de ces âmes. Père, merci pour la protection sur chacune des âmes de cette église, fragile ou pas fragile. Merci pour la protection, au Dieu. Merci parce que tu les attaches à la bergerie. Merci parce que tu les attaches dans le pâturage, ô Dieu. Ils restent fidèles à cette église. Ils avancent avec toi. Ils prospèrent avec cette église. Ils vont à un autre niveau, à un autre stade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la faveur de Dieu. La faveur de Dieu dans cette église. Restez dans cette attitude. Ma soeur qui est venue, l'Esprit de Dieu en train de me dire, juste à côté, juste derrière. Je vois une faveur auprès des autorités que Dieu va t'accorder. Une faveur auprès des autorités. Ne t'inquiète pas pour toutes les démarches que tu vas entreprendre. Tu comprends? Le Seigneur a déjà aplani, il a déjà tout préparé. Tout préparé. Ne t'inquiète même pas pour ton intégration dans cette église, parce que Dieu avait déjà préparé que tu viennes dans cette église. Dieu avait déjà tout planifié. Il avait déjà préparé une famille spirituelle pour toi, pour t'accueillir, pour t'amener à un autre niveau de spiritualité avec le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Oh alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Merci Seigneur Dieu que chaque frère et soeur de cette assemblée, ils reçoivent de toi Seigneur la vision Seigneur. Merci Seigneur parce que la planète n'est pas trop grande Seigneur pour ton onction. Et Seigneur, on croit ce matin, on croit Seigneur pour la francophonie, on croit pour le salut des âmes ensemble en église. Et merci Seigneur parce que on reçoit ce matin la colle du Saint-Esprit, être connectés ensemble, frères et sœurs, marchant ensemble dans la même vision, sachant Seigneur qu'on va voir une multitude d'en venir à toi, qui transfère d'un royaume, du royaume des ténèbres, et qui rentre dans la lumière, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu imprègnes cette vision dans nos cœurs, Seigneur, et on avance du même pas unis ensemble pour la francophonie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais ça aussi qu'on prie pour le pasteur Alain, qui retourne en France. Peut-être l'équipe pastorale, on pourrait venir prier pour le pasteur. fait imposer les mains, on va prier la protection divine. Combien d'entre vous, vous croyez que le psaume 91 est encore de l'actualité aujourd'hui? Amen. Mais Seigneur Dieu, on vient devant toi, Seigneur, on te remercie pour le pasteur Alain Patrick que tu nous as envoyé pendant toute cette convention annuelle. Merci, Seigneur Jésus, pour le dépôt qu'il a amené ici dans cette maison. Merci pour la foi qui a stimulé dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la vision qu'il nous donne aussi de continuer à avancer, jamais découragé, mais dans la joie. Oh, merci, Seigneur Dieu, pour ce temps béni que nous avons reçu ensemble ici. Et Seigneur, comme il retourne en France, Seigneur, nous prions maintenant que tu puisses augmenter le niveau d'onction dans sa vie. Nous te remercions pour l'onction qui augmente. Merci aussi, Seigneur, pour les nations qui s'ouvrent devant lui. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas faire de sa voix, Seigneur, une voix puissante, encore plus puissante, entendue aux quatre coins du globe. Merci, Seigneur Dieu, pour l'onction médiatique que tu lui as donnée. Merci pour l'émission Allô, le ciel est ouvert. Merci de souffler sur cette émission. Merci pour son équipe également en France, Seigneur. Merci pour les quatre églises là-bas qui sont là. Merci, Seigneur, que tu l'entoures de guerriers spirituels qui sont là pour l'appuyer dans la prière. Et on vient contre tout esprit qui voudrait nuire à son ministère. Toutes sortes de paroles. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous renversons la malédiction et nous déclarons la bénédiction sur sa tête. Nous déclarons qu'il est béni. Il est béni. Il est béni en toi. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu ouvres le chemin devant lui. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu t'apprêtes à faire à travers le frère Alain Patrick et également pour les signes et les prodiges qui augmentent dans son ministère. Merci, Seigneur, de te glorifier à travers ce vaisseau que tu as choisi. On prie au nom de Jésus. Amen. Et en terminant, on veut juste remercier pasteur Alain Patrick qui s'est déplacé pour venir bénir le peuple de Dieu ici au Canada. Et juste, si vous avez apprécié le frère, j'aimerais ça vous encourager à l'applaudir chaleureusement et le remercier. Donc, soyez richement bénis. Je décrète sur vos têtes le shalom de Dieu. Rien ne manquant, rien ne brisé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.